Alors, le texte qui me servira de support ce matin se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8. Alors, je veux bien que vous ouvriez vos Bibles sur ce passage. Donc, Matthieu, chapitre 8, versets 14 et 15. Chapitre 8, verset 14. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant de la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Comme il nous est dit dans ce passage, la belle-mère de Pierre est malade. La belle-mère de Pierre est clouée au lit par la fièvre. Et nous le savons, l'homme sans Dieu est malade, malade de son péché, une maladie qui le rend incapable de la moindre chose qui soit agréable à Dieu. L'homme sans Dieu est cloué au mal, comme la belle-mère de Pierre est clouée au lit. Et si Jésus a été cloué sur la croix, c'est pour prendre notre place, afin de nous libérer et nous déclouer de cette maladie qu'est le péché. Et ce miracle que Jésus accomplit sur la belle-mère de Pierre paraît tellement anodin au milieu de tous les autres miracles qui l'environnent, les nombreux miracles de guérison et de délivrance qu'a accompli Jésus, un de plus, pourrait-on dire. Auparavant, il a guéri un lépreux. Il a aussi guéri le serviteur d'un gradé de l'armée romaine. Et après ce passage, ce seront de nombreux démoniaques qui seront libérés et de nouveaux malades qui lui seront amenés pour qu'il les guérisse. Et au milieu de tout ça, au milieu de toutes ces personnes, au milieu de tous ces miracles, cette femme, la belle-mère de Pierre, dont on ne connaît d'ailleurs même pas le nom. Alors je vous propose de l'appeler Yvonne. Pourquoi pas Yvonne ? Il y a quand même quelque chose de spécial dans le miracle d'Yvonne. Alors que pour la très grande majorité des autres miracles qui nous sont racontés, on ne sait pas ce qu'il advient d'eux après leur guérison pour la plupart ou leur délivrance. Pour Yvonne, on en connaît un tout petit peu plus. Un tout petit bout de sa vie, quelques minutes peut-être, quelques heures tout au plus, après le miracle, avant qu'elle ne disparaisse de la circulation. Mais ces quelques instants de la vie d'Yvonne sont bigrement intéressants pour nous ce matin. Jésus, il nous est dit, toucha sa main. Être touché par Jésus. Tous les médecins vous le diront, il n'est pas aisé de parvenir à toucher tous les malades. Certains éprouvent de telles douleurs qu'ils vivent dans l'appréhension permanente de qu'elles soient relancées par l'auscultation, accentuées. Et pourtant, pour un médecin, il est essentiel de mettre le doigt sur la douleur, sur le mal, pour le localiser, pour en déterminer, en définir le périmètre. Se laisser toucher va à l'encontre de nos sensations et des réactions instinctives de nos corps, de notre corps. Et il faut parfois une bonne dose de volonté et de confiance pour en accepter le désagrément. Pourtant, se laisser toucher est essentiel. Se laisser toucher, c'est déjà entrer dans le processus de guérison. Se laisser toucher par Jésus, comme Yvonne s'est laissé toucher par Jésus, c'est essentiel pour notre salut, parce que nous le voulions ou non, nous sommes malades de notre péché et c'est une maladie mortelle. C'est essentiel ensuite pour notre vie avec Dieu parce que Dieu ne manquera pas de mettre le doigt sur tout ce qui ne fonctionne pas très bien dans nos vies. On peut refuser ce contact, on peut le rejeter, mais il n'empêche, le problème est bien là et demeure tant qu'on ne laisse pas Jésus s'en occuper. Peut-être parmi nous ce matin, il y a quelqu'un que Jésus veut toucher, peut-être pour la première fois, ou au contraire, après de multiples expériences avec lui. Et c'est vrai, ça peut être inconfortable. Inconfortable en ce que ça révèle à nos yeux des choses que nous, sur nous-mêmes que nous ne soupçonnions même pas. Que nous ne soupçonnons pas ou qui parfois apparaissent assez clairement aux yeux des autres, et c'est souvent à travers eux, à travers les autres, que Jésus vient nous toucher. Et je voudrais vous faire remarquer que Jésus touche la main d'Yvonne, sa main, et non pas une partie plus sensible de son corps, plus intime. La main, c'est une partie qui est relativement publique de notre corps, on ne la cache pas. Celle à laquelle nous avons des échanges avec les autres, comme la poignée de main, le salut, la caresse. Le toucher de Jésus est respectueux de notre intimité. D'autre part, si la main est une partie essentielle de notre corps, on s'en sert tous les jours, à chaque instant, ce n'est pas la plus souvent malade. D'autres organes sont bien plus sujets aux maladies que la main. La main a ses maladies, mais oui, d'autres organes sont bien plus exposés à certaines maladies, parfois très cachées. Mais Jésus n'a pas besoin d'explorer le corps en profondeur. Et dans le cas présent, il se limite à la main. Dans d'autres cas, comme dans le cas du centenier romain dont nous parlions tout à l'heure, le malade n'est même pas présent physiquement. Rien ne peut limiter l'action de Jésus sur nos vies, sauf une seule chose peut la limiter, c'est notre refus de nous laisser toucher par lui. Les pharisiens et les scribes qui ne se sont pas appropriés ces paroles sont entrés dans ce refus et ont refusé cette guérison qu'il leur proposait. Ils sont entrés en résistance et ont traité Jésus en ennemi, se réfugiant même derrière des préceptes et des lois que lui connaissait bien mieux qu'eux. Ils n'ont pas souhaité prêter leurs mains à son action guérissante. D'autres, au contraire, ont prêté leurs mains, mais pour un temps, et l'ont finalement retiré par crainte de ce que cela bouleverse dans leur vie. Mais Yvonne, elle, a laissé Jésus toucher sa main. Et aussitôt après, il nous est dit que la fièvre quitta son corps. L'intervention de Jésus est décisive sur le corps d'Yvonne. Ce n'est pas un léger mieux à confirmer. Ce n'est pas entrer en voie de guérison qui aurait pu peut-être laisser planer un doute sur le fait que c'était bien un miracle et puis que naturellement les choses peut-être se seraient arrangées sans qu'il ait besoin d'intervenir. Une guérison qui de toute façon allait arriver, c'est bien une guérison effective, pleine et entière, un rétablissement instantané d'Yvonne dans son statut de personne bien portante. Pas de repos à suivre, pas de convalescence, puisqu'il nous est dit tout de suite après qu'Yvonne se lève et se met au travail. La guérison que Jésus apporte est définitive. La fièvre quitta le corps d'Yvonne. Comme Dieu éloigne de nous nos péchés, comme le dit le psaume 103, que nous connaissons tous, hein, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. La fièvre s'est éloignée du corps d'Yvonne comme Dieu éloigne de nous nos péchés. La fièvre quitte le corps d'Yvonne comme le péché quitte sa position dominante sur le chrétien. C'est une personne restaurée qui se lève pour être immédiatement opérationnelle. Et de fait, Yvonne se leva. Simplement, la fièvre n'a plus d'emprise sur elle. Elle retrouve toutes ses forces. Et on ne sait pas quel est le genre de personne qu'est Yvonne, si c'est une femme forte qui a de la poigne ou au contraire de petite constitution, un peu timide. Et puis il y a des femmes fortes qui sont timides au contraire des femmes de petite constitution qui ont beaucoup de caractère. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle passe du statut de malade cloué au lit à celui de bien portant en pleine possession de ses moyens. Et quels que soient ses moyens, d'ailleurs, on ne la retrouve pas rajeunie de 20 ans. Sa personnalité ne s'en trouve pas changée. Elle va mourir de toute façon, comme nous tous. Comme Lazare, qui est ressuscité, que Jésus a ressuscité, va connaître, malgré tout, la mort, une mort définitive. Peut-être qu'Yvonne a une grande admiration pour Germaine, dont elle envie les qualités, dont elle admire certaines compétences. Mais Yvonne, guérie par Jésus, restera Yvonne et non Germaine. Être touché par Jésus, recevoir de lui le salut éternel, nous permet de nous relever de notre état de perdition et d'entrer dans le plan qu'il a pour notre vie. Et si progressivement il nous fait découvrir au contact de sa sainteté des valeurs qui nous sont étrangères, s'il dirige nos cœurs vers des désirs de plus en plus en accord avec sa volonté, il nous respecte profondément dans ce que nous sommes, et plus encore, il l'utilise. Un bon exemple est celui de l'apôtre Paul. Un trait de personnalité de l'apôtre Paul qui est indéniable, c'était le zèle. Qui peut dire que l'apôtre Paul n'avait pas de zèle ? Zèle que par ailleurs certains ont pu trouver excessif. Il n'est pas certain que si un psy s'était penché sur son cas, il n'aurait pas détecté là quelque anomalie. Saul était un homme incroyablement zélé dans son action contre les disciples de Jésus, persuadé par ailleurs d'agir au nom de Dieu. Touché par Jésus, guéri de son aveuglement, il se relève étant à la fois différent de par sa rencontre avec Jésus et animé dans une vision tout à fait nouvelle dans laquelle il vient d'entrer, mais toujours animé du même zèle dans l'accomplissement de la nouvelle mission qui lui est confiée. Dieu avait choisi cet homme zélé pour le servir en ce début de l'expansion de l'Église, et même si j'imagine que sous d'autres aspects, c'était peut-être quelqu'un qui n'était pas facile à vivre. Jésus n'a pas touché Paul pour neutraliser son zèle qu'il avait mis au service de l'opposition aux disciples de Jésus, mais pour l'utiliser et le faire entrer dans ses projets pour son Église. Mais revenons à Yvonne, notre Yvonne, la belle-mère de Pierre. Touchée par Jésus, guérie par Jésus, Yvonne se relève, il nous est dit. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, comme c'est le cas de la très grande majorité des miracles de Jésus. On voit des multitudes de personnes guéries par lui, dont on ne sait plus rien après qu'elles se soient relevées, qu'elles aient été relevées de leur maladie ou de leur handicap. Elles disparaissent. Non pas qu'on puisse les soupçonner d'ingratitude et de reprendre leur vie comme si de rien n'était, mais simplement, sur bon nombre de personnes, la Bible ne dit rien, l'histoire ne dit rien. On sait cependant qu'un certain nombre d'entre eux se mettent à suivre Jésus dans ses déplacements, un certain temps au moins. Mais comme on l'a dit aussi, un certain nombre finissent par se retirer, alors même qu'ils ont été guéris et ont côtoyé Jésus un certain temps. Vous connaissez aussi l'épisode des 10 lépreux, dont on ne voit qu'un seul, un Samaritain, qui revient rendre gloire à Dieu d'avoir été guéri, mais ça n'a pas non plus valeur de statistique. Dans ce qui est remarquable dans la vie d'Yvonne, c'est la dernière partie de la phrase. Et elle le servit. À peine relevée de sa maladie, Yvonne entre dans le service, naturellement, simplement, dans une simplicité absolue. Quel type de service ? Ça ne nous est pas dit. On peut l'imaginer, préparer un repas, Que sais-je ? Un lit pour la nuit ? Mais peut-être est-ce tout autre chose, on n'en sait rien. Quoi que ce soit, il s'agit, comme service, dans sa situation, de ce qu'il est à sa portée de faire pour Jésus et pour ses disciples. Et là, franchement, je ne trouve pas grand-chose d'autre à dire que suivons son exemple. Jésus passe beaucoup plus souvent près de nous que nous ne le pensons. Jésus entre beaucoup plus souvent dans notre champ d'action et de compétences que nous ne l'imaginons. Jésus toucha la main d'Yvonne. Jésus guérit Yvonne. Yvonne se leva. Yvonne le servit. Et je disais qu'on ne voyait pas beaucoup d'autres cas similaires dans tous les miracles de Jésus qui sont rapportés, où l'on voit le miraculé se mettre au service de Jésus. Et en ce sens, l'exemple d'Yvonne est vraiment remarquable. Alors, il y a d'autres cas, mais il y en a un autre cas qui est quand même à citer, et pas des moindres. Nous l'avons effleuré tout à l'heure. C'est celui de Paul. Jésus touche à Paul. Jésus guérit Saul de son aveuglement spirituel. Saul se relève. Saul, devenu Paul, servit Jésus. Comme on dirait aujourd'hui, Yvonne et Saul, même combat. C'est la même histoire. C'est exactement la même histoire, sauf que pour Yvonne, ça tient en la moitié d'un verset, un verset, et pour l'exemple de le cas de Paul, c'est raconté tout au long des Actes, et ça se prolonge dans les Épîtres. Même dans les épîtres de Pierre, où Pierre parle du travail de Paul, dont vous savez, d'ailleurs, n'oublions pas qu'Yvonne est la belle-mère de Pierre. Hein, tout cela se reboucle. Dans l'histoire d'Yvonne tient en une seule phrase et en quatre idées. Se laisser toucher, être guéri, se lever, et servir. Et ces quatre idées tiennent l'essentiel de la vie de Paul. En ces quatre idées tiennent l'essentiel de la vocation chrétienne. Imaginons un instant, et je pense que ça va vous faire froid dans le dos, que Paul, après avoir été mis à terre sur le chemin de Damas, est sorti de l'aveuglement dans lequel il se trouvait, remonte sur son cheval, si tant est qu'il soit tombé de cheval, c'est pas dit, mais bon, et poursuit sa route comme si de rien n'était. Bon, ok, je vous l'accorde, il aurait du mal à expliquer pourquoi il a perdu la vue en chemin. Mais bon, imaginons un instant. Quelle perte pour l'Église, quelle perte pour la multitude de nations qui devront attendre qu'un autre se lève pour accomplir ce service. Yvonne n'est pas Paul. Yvonne n'a ni le pouvoir ni l'influence de Paul et sans doute pas la connaissance de Paul puisque Paul était pharisien. Mais Yvonne est-elle moins apte à servir que Paul parce qu'elle n'a pas toute sa connaissance des Écritures? Et tout ceci n'est que conjecture parce qu'on ne sait rien d'elle et qu'elle peut avoir d'ailleurs passé une grande partie de sa vie dans le temple à écouter la lecture de la parole de Dieu. Peut-être Yvonne, a-t-elle un zèle comparable à celui de Paul. Il est de toute façon certain qu'Yvonne a des aptitudes, des compétences, et dès que l'occasion passe à sa portée, elle entre dans le service. Yvonne et Paul, c'est une même histoire, de personnages différents et utilisés différemment avec leurs différences. Simplicité absolue de l'histoire d'Yvonne. Il a été confié à Paul homme exceptionnel, une mission exceptionnelle. Mais Yvonne, c'est vous, c'est moi. Yvonne, c'est tout un programme. Yvonne, c'est un plan de vie. Le plan, sans doute moins exceptionnel, moins grandiose que celui de Paul, mais il est quand même exceptionnel dans le sens que c'est à moi et à moi seul qu'il est confié. C'est ma mission, c'est le plan de Dieu pour ma vie. On m'a envoyé récemment cette histoire que je vais vous lire. Un de ces dimanches à l'église, bien recueilli sur mon banc, j'écoutais mon pasteur parler des besoins que la paroisse avait de trouver quelques personnes pour enseigner aux adolescents les connaissances de la Bible. Et là, Dieu vint s'asseoir à côté de moi et me dit « Mon fils, c'est pour toi ce travail. » « Mais Seigneur, c'est une chose que je ne peux pas faire. Je suis trop gêné pour me tenir ainsi devant toute la classe. Je pense que c'est à Robert qu'on devrait demander. Il sait bien, il saura faire bien mieux que moi. J'aime mieux entendre l'enseignement ici de mon banc. » Un autre dimanche, j'entendis mon pasteur dire à la communauté « Nous avons besoin d'un animateur pour faire chanter pendant les célébrations qui se portent volontaires. » Et de nouveau, Dieu va s'asseoir à côté de moi, sur mon banc, et me dit « Mon fils, tu peux faire ça. » Mais Seigneur, chanter devant une foule, je ne peux pas faire ça. Je chante faux. Il faut demander à Paul, il a une belle voix. Il aime mieux prier. J'aime mieux prier et chanter ici, de mon banc. Quelques semaines plus tard, mon pasteur avait encore une demande à faire. Nous avons besoin de personnes pour accueillir les gens. Qui veut accepter cette tâche ? De nouveau, Dieu vint s'asseoir près de moi, sur mon banc, et me dit « Mon fils, c'est pour toi cette tâche. » Mais Seigneur, parler à des étrangers, les accueillir, je ne peux pas faire cela, je ne sais jamais quoi dire. Il faudrait demander à Marguerite, et oui, pourquoi pas des femmes aussi. Elles ont mieux le don pour faire ça. J'aime mieux que les gens viennent s'asseoir à moi, viennent à moi s'asseoir ici, à côté de moi, sur mon banc. Les années ont passé bien rapidement, et finalement je n'ai plus entendu cette voix qui m'encourageait. Un soir, je m'endormis pour me réveiller aux portes du ciel. Nous étions quatre à entrer dans l'éternité ensemble. Dieu dit « J'ai besoin de trois personnes. J'ai une tâche bien particulière à confier. » Instantanément, je me lève. « Seigneur, Seigneur, je vais le faire. Il n'y a rien que je ne peux faire pour toi. » Dieu me dit « Je regrette, mon ami. Ce dont tu as fait ta spécialité ne me sera pas utile, car il n'y a pas de banc ici au ciel. » Jésus est passé à portée du champ d'action de Paul, et Paul a centré son action sur lui. Et bien avant cela, bien avant Paul, Jésus est passé à portée du champ d'action d'Yvonne. Et Yvonne a mis son action à son service. Toute sa vie, on ne sait pas, on ne nous en dit pas plus, ça ne va pas plus loin que ces quelques minutes, ces quelques heures. Mais ce que l'on voit, c'est qu'en cet instant, Yvonne a saisi le service qui passait à sa portée. Et nous, quel service passera à notre portée dans les jours et les semaines qui viennent? Jésus passe à notre portée le dimanche matin à partir de 10h, mais il commence de passer à 9h30 ou 9h20 à la réunion de prière. Peut-être c'est à la portée de plusieurs d'entre nous. Quel service entrera dans notre domaine d'action et de compétences? Peut-être même dans quelques instants au cours des annonces qui vont suivre. À quoi vais-je consacrer une partie de mon temps pour contribuer selon mes capacités? Et il ne s'agit pas plus que de cela. Il ne s'agit pas plus que de cela, contribuer selon mes capacités à l'œuvre d'une valeur inestimable, l'action guérissante de Jésus envers d'autres personnes. Jésus toucha la main d'Yvonne et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. J'avais prévu un chant après ce message, mais On m'a dit qu'il n'était pas du tout connu. Mais ce matin, quand j'ai entendu le chant que nous avons chanté chaque jour, je me suis dit oui, chaque jour, Jésus passe à portée de nos capacités. Jésus passe à portée de notre champ d'action. Jésus passe à portée du périmètre dans lequel nous pouvons agir. Et donc, je vous propose de rechanter ce chant. En pensant bien à tout cela, en pensant bien à comment Jésus nous a touchés, comment il nous a guéris, comment il nous a relevés, et comment maintenant nous pouvons le servir. Amen.